Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux, et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez.
Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Pascal ?
Oui.
Pascal comment ?
Pascal Mahon.
Voilà. Quelle année ?
62.
Quel signe du zodiaque ?
Oh là, cancer.
Et quelle profession ?
Assistant à maîtrise d'ouvrage.
Bon, eh bien on est parti pour une émission pirate. Générique !
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Quand on est pirate. Alors, Pascal, je suis heureux de t'inviter sur cette radio.
Merci, Marc.
Libre de son. Et je sais que tu es un passionné et actuellement, on traverse une période au Qatar de la Coupe du Monde, mais on va parler de notre belle Alsace. Toi qui as été président d'un club à Dixheim-sur-Bruche, qui a frisé ce qu'on appelle l'élite de l'amateur, tu étais très en avance sur ce qui s'est passé sur cette fusion de cette Ligue d'Alsace qui était un fleuron en Alsace. Et j'aimerais bien avoir ton sentiment sur cela.
Bah écoute Marc, mon sentiment pour cela, je me rappelle à l'époque quand il s'agissait de la fusion entre effectivement la Ligue d'Alsace et la Ligue du Grand Est. J'ai eu une assemblée générale dans le Haut-Rhin qui avait eu lieu, simplement que j'étais un des seuls présidents qui m'était opposé à cette fusion. Voilà, pour la bonne et simple raison que je savais très bien que ça allait poser des problèmes, hein, des problèmes de proximité, des problèmes de mentalité, donc m'étais opposé. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire marche arrière, et je savais aussi que indirectement, cette fusion était politisée, et les clubs de sport devaient suivre effectivement la lignée de la fusion entre les grandes régions.
Alors à l'époque, le président, c'était de la Ligue d'Alsace ?
Bah, toujours encore, hein, c'était Albert Gemrich. Hein.
Oh, il n'a pas d'ambition politique, cet homme.
Bah, écoutez, je ne sais pas s'il n'a pas d'ambition politique, mais après...
C'est un grand joueur.
Oui, c'était un joueur alsacien, un joueur reconnu sur Strasbourg. C'était, après, il a joué une carte, hein, il a joué quand même la carte de la Fédération Française de Football. Donc je pense qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre de la politique dictée par la Fédération Française de Football, puisque de toute façon, aujourd'hui, on sait très bien qu'Albert Gemrich est très très proche de Joël Le Graët.
Alors, cette fusion, bien sûr, entre des clubs, je dirais, mosellans et des clubs alsaciens, il y a une grande différence. J'ose même pas parler de la Meurthe-et-Moselle, j'ose même pas parler des clubs vosgiens. Quelle était la richesse de la Ligue d'Alsace ?
Bah, la Ligue d'Alsace de football, comme toute l'Alsace, hein, c'est une région qui est très autonome. Hein, c'était une des régions où les clubs étaient le plus à jour au niveau de leurs cotisations, où ils sollicitaient moins les services sociaux. Parce que ces clubs-là, ou surtout les clubs du milieu rural, sont des clubs effectivement qui avaient les moyens. Parce qu'ils avaient des spectateurs, ils avaient des buvettes, ils avaient un fonctionnement qui leur permettait d'avoir des réserves et être totalement autonomes.
Ce que tu veux dire, qu'il y avait un tissu économique de dirigeants qui était implanté dans ces villes, dans ces villages, et qui avait une notoriété, et qui étaient des passionnés de foot, comme toi. Parce que toi, tu es un joueur qui a toujours eu la passion du foot depuis que tu as été Benjamin jusqu'à être président.
Oui, ben, je me suis aussi rendu compte qu'au niveau de la Ligue d'Alsace du football, au niveau du décisionnel, les gens qui représentaient la Ligue n'étaient pas forcément des gens qui étaient représentés dans les clubs, parce que les gens qui étaient en train de s'occuper de leur club, ils avaient tellement peu de disponibilité qu'ils n'avaient pas encore le temps d'être représentés au niveau de la Ligue d'Alsace du football.
Alors toi qui as été président, je le sais, et qui est arrivé quand même à jouer ce qu'on appelle en division d'honneur, ce qui est une très belle division, hein, qui est la plus haute division en amateur.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai repris ce club, on était en 3e division. Et puis effectivement, après, on a gravi les échelons. Après, je ne pourrais pas dire que c'était peut-être les premières années qui étaient les plus belles, parce que ces années-là, on parlait moins d'argent. Mais bon, j'avais une chance énorme. Effectivement, j'avais une vingtaine de bénévoles où tous les samedis matin, on avait des journées de travail et puis effectivement, on faisait avancer le club comme ça. Après, on avait effectivement des catégories de jeunes, des jeunes dans toutes les catégories. Mais malheureusement, au niveau des jeunes, on n'avait pas un niveau assez élevé. Après, comme l'équipe 1 a monté, on n'avait pas suffisamment de jeunes pour effectivement postuler au niveau de notre équipe senior. Ce qui nous a amené effectivement à dénaturer un peu le club et chercher effectivement des joueurs d'un niveau supérieur, mais à l'extérieur, et effectivement avec des moyens financiers, puisque effectivement, à partir d'un certain niveau, les joueurs ne jouent que pour l'argent. Donc de toute façon, si on voulait évoluer, on n'avait pas le choix.
C'est difficile d'être président actuellement ?
Bah, actuellement, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit avant, je pense que c'est toujours difficile d'être président. Difficile d'être président parce que déjà ça demande de la disponibilité. Un président doit être un patron. Un patron doit être là régulièrement. Je me rappelle à l'époque avec Serge Comtès, quand je m'étais avant d'être à Dinsheim, quand j'étais au comité de l'ASP Vauban, ben, le patron c'était Emil Stahl. Mais Emil Stahl, ben, il avait la réunion de lundi, tous les lundis il était là. Donc c'est vrai que quand on est patron d'un club, c'est comme un patron d'une entreprise. C'est plus facile de faire un jugement quand on voit les choses de ses propres yeux plutôt que, effectivement, quand il faut juger, quand les gens vous rapportent les choses.
Alors toi, tu penses que le football amateur est en danger actuellement ou pas ?
Oui, le football amateur est en énorme danger parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, il y avait la 4e division. Maintenant, il y a encore de la 3e division. Quand je parle au bas de l'échelle, il parle même du 2e division. Ça veut dire qu'il y a moins en moins de joueurs. Donc, elle est en danger parce que je pars toujours du principe que c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et c'est marrant. Réchauffement climatique, les petits ruisseaux s'assèchent. Et ils s'assèchent également dans le football.
Pourquoi ? Parce que les jeunes sont moins attirés. Pourtant, il y a des stars, Benzema, Griezmann, Mbappé. L'équipe de France brille.
Bah, vous savez, aujourd'hui, on parle même de faire des championnats aujourd'hui de jeux en ligne. Hein. Donc, le monde a évolué, la dématérialisation. Donc, les jeunes aujourd'hui... je me rappelle, à l'époque, quand j'ai commencé à jouer au football... On avait un terrain de foot, on rentrait de la maison, même on ne faisait pas nos devoirs, on jetait notre sac dans un coin. On avait un terrain, on traçait les lignes avec la sciure, on faisait des buts avec des lattes à bois, on faisait les filets des filets de cage à lapin. Et puis aujourd'hui, ben voilà, il y a des terrains, tout a mis à disposition. Les jeunes, ils ont plein de choses. Ils ont trop de choses. C'est comme aujourd'hui à Noël. Voilà, moi, à l'époque, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais eu un train électrique. Mais mon train électrique, voilà, je l'ai encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'étais heureux. Et puis aujourd'hui, je veux dire, trop c'est trop. Et à force d'en avoir trop, on ne sait plus ce qu'on veut.
Bon, alors je sais que tu as une passion, Julien Clerc. D'où vient cette passion, Julien Clerc ?
C'est une passion, Julien Clerc. Moi, je suis quelqu'un d'agréable, je suis quelqu'un de doux. Et je suis aussi quelqu'un qui marche au physique. Et puis, voilà, c'est un chanteur que j'adore. J'ai une fois eu la chance de le voir se représenter à Mutzig.
Au Dôme.
Au Dôme de Mutzig, bien évidemment.
Dans une... Il y avait foule, 300 personnes, je pense que ça a été...
Pas 300, mais il y avait 800 personnes, la salle pouvait en contenir 1200. Vraiment, ça c'est encore un autre problème.
Allez, Julien Clerc, on en parlera après.
« je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude.
Eh ben voilà, la solitude.
Juste une petite parenthèse.
Oui.
Je voudrais dédier la chanson à Isabelle. Parce que j'ai eu la chance, il y a 10 ans, de rencontrer la femme de ma vie.
Ben, elle est toute dédiée à Isabelle, que je connais, qui est une très belle personne. Alors, pour revenir sur le foot, on va laisser glisser, parce que on sent dans le timbre de ta voix un peu de nostalgie, un petit peu de regret.
Ouais, j'ai pas de regret, mais c'est de la nostalgie. Mais après, moi, au niveau du football, depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à traîner sur les terrains de football. Hein. J'étais un fils d'ouvrier, mais après, mes parents savaient très bien que quand j'étais au foot, j'étais bien. Et j'ai joué au football et j'ai arrêté le football à l'âge de 55 ans. Donc j'ai fait 50 ans de football. Donc j'ai connu toute l'évolution. Le football aussi m'a permis de grandir, m'a guidé professionnellement. Donc je n'ai aucun regret. Le football m'a beaucoup apporté. Et je me suis même rendu compte que j'étais devenu addict et le football avait pris le dessus sur tout. Et vous savez, comme dans toute addictologie, pour s'arrêter, il n'y a qu'une solution, ben, il faut qu'elle soit radicale, mais il faut aussi effectivement que ça vienne de la personne. Et à partir du moment où j'avais pris cette décision, ma décision était prise, donc c'était devenu radical. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que je pense que j'ai fait le tour de la question.
Alors, bien sûr, dans le football, il y a le partage, et il y a le partage entre ces poussins et ces clubs de vétérans et d'anciens qui sont autour de la lice pour regarder le match. Et je sais qu'actuellement, tu as un cri un peu du cœur sur les personnes âgées, sur ce qui se passe dans différents milieux. J'aimerais aborder cela avec toi. Tu peux avoir un micro où tu peux t'exprimer ouvertement sur cette notion-là de ces personnes.
Oui, bon, bah après, c'est vrai que quand j'ai arrêté le football, je suis devenu un peu plus disponible, j'ai un peu plus ouvert les yeux sur le monde extérieur. Le hasard a voulu que j'étais effectivement très attaché à une de mes tantes, j'étais effectivement ma mère aussi, effectivement, qui avait presque 90 ans. Et je me suis dit, ben, écoutez, je leur dois aussi quelque chose. Et c'est aussi à ce moment-là, après... d'une traversée de 2 ans, puisque j'avais une entreprise. Et bien évidemment, le football a pris le dessus sur mon entreprise. Et pendant 2 ans, j'ai fait le vide. J'ai fait un travail sur moi-même. J'ai traversé un tunnel.
Un tunnel.
Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité. Effectivement, je me suis rendu compte que les personnes âgées... à partir du moment où elles perdaient leur autonomie, c'était plus comme à l'époque où dans les fermes, on s'occupait de 3-4 générations. Et effectivement, je me suis dit, ben, les personnes âgées, il faut être là un peu pour eux et s'occuper d'eux. Donc je me suis investi et c'est quelque chose que...
Et quel est le constat ?
Ben, le constat est qu'effectivement, il faut prendre le problème à la source. Je m'occupe d'eux, je remets en place effectivement des salles de bain autonomes. Quand ils n'arrivent plus à enjamber les baignoires, je leur mets des douches.
Est-ce que tu sens une je dirais, une détresse dans ce milieu-là actuellement ?
Il y a une grosse détresse dans ce milieu-là parce que bah, ils se rendent compte que bah, les enfants ne veulent plus trop, tellement s'occuper d'eux. Et puis à un moment donné, quand on n'a plus d'autonomie, il n'y a qu'une solution, c'est l'EHPAD. Mais je suis désolé de le dire, mais l'EHPAD aujourd'hui, c'est le saut de la mort. C'est la désocialisation. On critique les infirmières, les personnes qui interviennent dans ces établissements, mais je suis persuadé qu'elles font ce qu'elles peuvent. Mais je pense qu'aujourd'hui, de nouveau, il faudrait responsabiliser les enfants, il faudrait reprendre le chemin en sens inverse et faire peut-être des plans de dépendance. Moi, je vois que j'ai 60 ans aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas choqué qu'on me pose la question, qu'on me fasse un dossier, me dire, écoutez, si demain vous êtes dépendant, mettre en place un plan, prévenir pour, plutôt que guérir, et pour que le jour où ça arrive, pour que les programmes y soient en place.
Alors toi, tu les fréquentes, ces gens-là, ils t'accueillent d'une façon magique. Tu m'as déjà souvent raconté, petit four, gâteau, t'es accueilli, ça. Et il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de...
Oui, il y a beaucoup d'endresse. Vous voyez, ce matin, j'étais en milieu rural, hein, chez une dame, elle a 92 ans, elle roule encore en voiture, elle a la chance, elle a toute sa tête, elle a une salle de bain à l'étage, elle anticipe. Je lui fais une salle de bain en bas, pour qu'elle ait, si elle ne peut plus monter les escaliers. Elle m'a fait un truc extraordinaire ce matin. Elle me dit, regardez, je vais vous faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Ah bon ? Bah écoutez, elle a enlevé sa canne, elle a laissé les jambes droites et elle a touché les doigts de pied avec ses mains. Extraordinaire, c'est des leçons de vie.
Oui, parce que ça, tu n'es pas capable de le faire.
Bah écoute Marc, excuse-moi, hein, mais j'étais un peu minable. mais voilà, ça c'est un cas.
C'est un cas.
Mais après, il y a des gens qui sont des différents états. Je suis même amené aujourd'hui, parfois, à faire des signalements. Voilà, quand vous voyez une personne qui est jugée sur Strasbourg en ce moment parce que sa mère était à l'EHPAD, ils ne sont pas arrivés à payer l'EHPAD, ils ont considéré qu'elle pouvait nouveau rentrer à la maison, on accuse le fils parce qu'il ne s'en est pas occupé. Bon, ok, ça c'est une chose, mais qu'on laisse rentrer une personne qui était depuis 2 ans dans un EHPAD et qu'on ne fasse pas de suivi, il y a aussi une responsabilité de la part de la collectivité. Vous me direz, la collectivité ne peut pas toujours s'occuper de tout. Mais effectivement, les gens deviennent de plus en plus âgés. Et la dépendance, c'est quand même un problème. Moi, j'ai vu des gens, quand ma mère était à l'EHPAD, j'ai vu des personnes arriver. Il faut savoir que de plus en plus de personnes mettent les gens à l'EHPAD quand ça ne va plus. Mais au bout de 2-3 mois, ils sont complètement désocialisés. Et moi, je dis, c'est un peu dommage. Moi, je considère que c'est le saut de la mort. C'est la solution de facilité et de dire que parce qu'on paye, on a droit. Non, je suis désolé. À partir du moment où les familles ont des enfants, même dans les EHPAD, il faudrait les responsabiliser et leur donner des tâches. Des tâches pour s'occuper de leurs aînés.
C'était un peu une tradition. C'est ce qu'on faisait sur les terrains de foot parce que les aînés aidaient les jeunes. Et aujourd'hui, c'est ça aussi le bénévolat qui est en train de partir.
Oui, bien sûr, le bénévolat est en train de partir, hein, pas parce que effectivement les mentalités ont changé, et puis parce que toutes les générations qui arrivent derrière, il faut savoir que moi, par exemple, je suis parti en vacances avec un copain, la première fois de ma vie, j'avais 20 ans. Donc voilà, après les gens étaient de plus en plus disponibles, et effectivement, souvent, on ne partait pas en vacances, mais par contre, on était bénévole dans une association. Beaucoup de football, parce que dans tous les villages, il y avait un club de foot. Voilà, le dimanche, c'était un peu la sortie. Les femmes, les enfants discutaient entre elles. Et puis, effectivement, les hommes, ils regardaient le match. Et puis voilà.
Et après, les échanges étaient là. Et tout se terminait à la buvette, dans la bonne franquette.
Oui, ça se terminait à la buvette. Mais bon, après, voilà. Après,
c'était la vie du village. Alors, ton deuxième titre que tu as choisi, toujours Julien Clerc.
Mais pourquoi on ne change pas une équipe qui gagne?
Exactement. Donc, on y va.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout clown gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi.
Alors Alors je sais, cher auditeur, cet air, vous l'entendez, c'est un de mes collègues qui fait des émissions et Pascal a la même passion sur le même musicien. Il y a un message dans cette chanson, Fais-moi une place.
Bah, fais-moi une place au fond de ton cœur, oui, il y a toujours un message, parce que effectivement, avec les différentes étapes que j'ai connues dans ma vie, j'ai toujours pas vécu au travers des autres, mais j'ai toujours, toujours voulu ou aimé faire plaisir. Je me suis rendu compte à un moment donné, on ne peut pas forcément toujours faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que effectivement, après avoir vécu les différents échecs que j'ai vécu, me suis rendu compte que aujourd'hui, je leur dirais plutôt, et je fais passer ce message, faites-moi une place au fond de votre cœur. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, ils n'ont plus de place au fond de leur cœur, et alors qu'ils ont quand même atteint le fond.
Alors moi, je ne sais pas si tu es un bon joueur de foot, mais je sais que tu avais une anticipation pour être un joueur de basket, car dans la raquette, le rebond, tu étais un des meilleurs au rebond. Car tu as une faculté au rebond extraordinaire, Pascal. Et moi, il y a une chose qui me fascine. Alors bien sûr, je vais te demander vite, tu penses que l'équipe de France va aller loin ?
Bah, écoutez, vous savez qu'à partir du moment où c'est des matchs à élimination directe, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'avec les matchs qu'on a vus jusqu'à présent, il y a une certaine fluidité, il y a un équilibre dans cette équipe. Et effectivement, cette équipe de France, elle fait plaisir à voir.
Alors peut-être qu'à Noël, on peut mettre de la truffe.
Bah écoute Marc...
Et parle-moi de cette aventure, parce que ça c'est le petit cadeau de fin de Noël, la truffe.
Ah bah écoute, voilà, bah, tu sais très bien que le mari à ma filleule, effectivement, la ferme Alter à Vasselonne, effectivement, Jean-Luc qui a une exploitation et puis qui a des vaches, il m'a toujours dit, écoute, je vais planter des truffes, ça fait 7-8 ans, à partir du moment où effectivement les truffes produisent, je veux faire de la truffe d'Alsace, j'arrêterai les vaches. Et effectivement, c'est bon signe, hein, parce que quand j'ai traversé le tunnel, j'ai donné beaucoup de coups de main à Jean-Luc pendant la période de Covid, où effectivement, je lui ai monté un réseau quand les restaurateurs étaient fermés, effectivement, il produit également des asperges et de la fraise, je lui ai monté un réseau, et Jean-Luc est venu me voir, écoute Pascal, je vais avoir de la truffe, tu peux pas me donner un coup de main pour la truffe. Alors moi, effectivement, comme je suis un chat ou un caméléon ou un chat, je suis retombe toujours sur mes pattes et je me remets toujours constamment en question. Je pense que aussi c'est ce qui m'a beaucoup sauvé, la remise en question et toujours apprendre à me démerder. Quand j'étais petit, quand je voulais un vélo, mon père m'a toujours dit, écoute, tu as un vélo, t'as qu'à bosser. J'ai cueilli des pommes, j'ai vendu des pommes avec la charrette de la grand-mère et la balance. J'ai vendu des pommes, je me suis acheté mon vélo comme ça, je me suis acheté ma mobylette. J'avais 16 ans, mon père m'a dit, écoute, faut que t'ailles travailler, ça va plus, tu peux pas continuer tes études. Je suis allé travailler, j'ai repris mes études à 24 ans, j'ai toujours rebondi, j'ai appris à me démerder. Mais en tout cas, mes parents m'ont toujours appris à travailler, ils m'ont toujours appris à respecter les autres. J'ai toujours respecté les autres et je me respecte moi-même.
Alors c'est une belle leçon de vie. Moi, je reviens sur la truffe, parce que la truffe d'Alsace, bon, on connaissait la truffe de Bourgogne, je sais que c'est la même, mais le terroir alsacien s'y prête bien.
Ben, écoutez, Jean-Luc a de la chance, hein, effectivement, il a un terroir qui se prête à la truffe. Hein. Effectivement, il a trouvé ses petits arbres, ce sont des petits chênes, il a trouvé dans les Pyrénées. Et effectivement, il a une chance énorme, parce que son terrain se prête à la production de la truffe. Bien évidemment, il a fait analyser le terrain avant de s'engager...
Dans cette production. Et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est vraiment une production qui a une conséquence ? On parle de quoi ? De 5 kilos, 10 kilos ?
Ah bah vous savez, Jean-Luc, c'est un paysan. Hein. Vous savez, les paysans, vous ne saurez jamais vraiment la vérité. Hein. Mais à partir du moment où il vient me voir, il me dit « Écoute, Pascal, tu ne pourrais pas me donner un petit coup de main ?»
Il y a de la truffe.
Je pense qu'il a de la truffe. Voilà.
Il y a de la truffe. Voilà. Donc on aura de la truffe alsacienne à Noël qui va très bien aller parce qu'avec l'augmentation sur le foie gras, nous nous mettons dans des situations difficiles. Alors nous allons bientôt arriver à Port, voilà, à Dingsheim-sur-Bruche. Nous nous mettons entre le canal et la rivière. Qu'est-ce que tu as par rapport à cette rivière ? Ça te rappelle des souvenirs ? À part de chercher les ballons dans l'eau.
Oh bah écoutez, moi la rivière, la Bruche, je trouve qu'elle n'est pas changée, hein. Elle est même beaucoup plus propre qu'avant. Je me rappelle à l'époque dans la vallée de la Bruche, il y avait toutes les industries textiles, quand ils nettoyaient, quand ils coloraient les tissus, quand ils rejetaient les rejets dans la Bruche, je trouve que la Bruche est beaucoup plus propre.
Maintenant, moi, j'ai aussi également, je peux vous dire, il y a 50 ans, j'ai connu effectivement 10 lits de Bruges qui étaient complètement asséchés. Bon, on ne parlait pas encore effectivement de réchauffement climatique ou de ce genre de choses, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé.
Pas changé, c'est éternellement. Ben écoute, la barque est amarrée, c'est terminé. Je te remercie, voilà. Pascal.
Merci Marc, et merci de Radio Judaïca d'avoir bien voulu m'accueillir.
Mais j'aime bien ta sincérité et je savais que c'était important que tu le dises.
Ouais, bah moi je dis ça au fond du cœur et puis c'est bien de pouvoir s'exprimer. Merci.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai, marin de terre ferme,